Morale. La base unique de la vie morale doit être la spontanéité, c'est-à-dire l'immédiat, l'irréfléchi. Cette citation de Sartre dans les Cahiers pour une morale indique bien la problématique centrale du concept de morale. En effet, son ambiguïté structurante est de renvoyer à la fois vers la pratique d'actes de moralité et vers le fondement des actes, le fondement de la justification de ces actes par une théorie particulière qui s'appellerait théorie morale. Si l'éthique peut être définie comme la pratique de la vertu, la morale serait l'art d'en distinguer les règles, et ainsi on comprend le concept de science morale, par exemple. S'il y a une connaissance morale, il y a donc nécessairement la présupposition d'une dimension de conscience qui s'échappe de l'action elle-même, qui n'est pas simplement la dimension de l'acte, mais qui est aussi la dimension des justifications de cet acte. Il y a donc la présupposition de cette distance. Et dans l'histoire de la philosophie, cette distance, progressivement, sera nommée liberté. La liberté morale est précisément la capacité où nous sommes d'évaluer nos actions et de ne pas seulement les poursuivre ou les dévier d'une manière contrainte ou spontanée. Cette liberté au moins potentielle du jugement moral est la condition d'une liberté tout aussi potentielle de notre action. Le dilemme de toute morale consiste donc à établir et à spécifier les modes et les degrés de cette liberté sans laquelle nous ne pourrions pas juger nos propres actes et ainsi définir leur valeur intrinsèque ou locale. Les trois dimensions fondamentales de la morale s'exercent donc ainsi, d'une part du côté des mœurs, d'autre part du côté des normes, et enfin du côté des fondements. Ce sont ces trois aspects qu'il nous faut évoquer brièvement. Du côté des mœurs, ce qu'on pourrait appeler l'anthropologie morale renvoie à la dimension matérielle du bien, à savoir que se conduire de manière morale, c'est incarner les prescriptions locales, historiquement ou géographiquement, d'une société donnée dans laquelle nous nous trouvons vivre et qui définit pour tout individu le bien qu'il est supposé poursuivre ou les actions bonnes qu'il lui est licite d'accomplir. En ce sens, la relation au bien est une relation dans laquelle nous avons simplement à être éduqués. C'est par un ensemble d'habitudes que la morale s'incarne, parce que ces habitudes nous permettent d'aller droit au but et d'incarner l'ensemble des valeurs, des attitudes et des comportements prescrits par la société dans laquelle nous nous trouvons. La relation aux autres s'en trouve fondamentalement facilitée. Il y a là une anticipation réciproque des attitudes loyales qui peuvent être ainsi validées, puisque chacun d'entre nous sait à peu près s'attendre aux comportements qui viendront d'autrui. En ce sens, de la prescription morale naît la sécurité collective. Il n'y a pas de meilleure garantie de la fluidité des relations et de la capacité des collectivités humaines à évoluer d'une façon aussi harmonieuse que possible. Mais il est un autre plan sur lequel la dimension morale se développe. Et c'est celui de la réflexivité ou de la critique qui permet à un groupe social ou qui permet à une société, voire à un individu, de s'interroger lui-même sur les dimensions de justification de ses actes. Il est dans toutes les sociétés des corps particuliers appelés à réfléchir sur les normes pratiquées, à en proposer des améliorations ou des alternatives. Nous pouvons considérer que la philosophie morale instaure cette réflexivité au sein de la métaphysique classique et permet de penser le bien non pas comme une prescription, mais comme ce qui permet de dériver une action d'une norme qui doit être elle-même explicitée. Qu'il s'agisse de la morale provisoire chez Descartes, ou qu'il s'agisse des principes métaphysiques pour la morale chez Kant, permettant de dégager la notion d'impératif catégorique, et ainsi de donner une dimension d'universalité subjective à l'action morale en la référant à sa généralisation possible en tout temps et en tout lieu et pour tout sujet possible se trouvant dans la même situation que nous. Nous sommes ici non plus sur le plan de l'action morale, mais sur le plan d'une réflexivité qui fait de la morale finalement une dimension de formalisme. Cela permet à des auteurs comme Brentano ou à Husserl de dégager l'idée d'une axiologie formelle qui n'aurait pas grand-chose à voir avec la dimension matérielle, comme le dit Max Scheler, de la morale. La dimension formelle est celle par laquelle nous comprenons que toute orientation vers le bien est en elle-même un bien, et qu'en ce sens, la postulation du bien réalise l'une des conditions formelles du passage vers la moralité. Mais du côté de l'action morale matérielle, comme dit Max Scheler, alors les prescriptions sont celles de la générosité, sont celles de l'amour, sont celles de l'empathie, ces dimensions par lesquelles l'orientation morale se trouve concrètement impliquée dans une action concrète. Ces systèmes de moralité font l'objet de dimensions de critique, si l'on pense avec Marx ou avec Nietzsche ou avec Freud, que les sujets ou les collectivités choisissent en réalité des biens en grande partie du fait des contraintes dans lesquelles elles se trouvent placées, qu'il s'agisse de contraintes logiques, qu'il s'agisse de contraintes économiques, qu'il s'agisse de contraintes psychiques, et qu'en ce sens, notre liberté même est une liberté aliénée. L'aliénation de la liberté devient l'une des dimensions centrales de la question morale, puisqu'une liberté qui serait aliénée ne serait plus simplement à même de distinguer ses propres fins, mais ferait de ses propres fins un modèle de sa propre aliénation. Il faudrait donc pouvoir échapper non pas simplement aux contraintes locales et historiques qui définissent une collectivité morale à partir de bases traditionnelles, mais il faudrait également pouvoir s'émanciper des normes historiques ou des normes sociales qui font même de la moralité une dimension de l'ordre du souhaitable. C'est ce à quoi ont prétendu des systèmes de pensée qui ont voulu réduire les dimensions de la morale à une dimension purement formelle ou linguistique, du côté de la pensée des écoles analytiques, ou bien, du côté d'un auteur comme Claude Lévi-Strauss, de pouvoir réduire la dimension morale à la dimension de prescription interne à un système dont aucune justification autre que son fonctionnement effectif ne se trouve validée. Ainsi, la norme de la prohibition de l'inceste est sans doute indispensable pour pouvoir concevoir un système social permettant d'éviter l'endogamie et ainsi d'élargir les communautés humaines à des groupes qui ne seraient pas seulement des groupes rivaux et ennemis et à créer quelques alliances et allégeances entre eux, mais rien ne vient donner à la norme de la prohibition de l'inceste une valeur absolue, une valeur revêtant quelque chose en rapport avec l'impératif catégorique chez Kant. C'est ainsi que, pour conclure, la dimension de morale renvoie en permanence à l'interrogation du sujet sur ses propres normes, et nous en revenons ici aux interrogations de Montaigne, qui faisait de l'instauration d'une capacité auto-juridictionnelle le cœur de ce qui n'était pas chez lui un scepticisme généralisé, mais au contraire la recherche de retrouver dans le for intérieur de la personne les justifications de sa propre action.